France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Quatrième et dernier épisode aujourd'hui de notre série sur les philosophes et le pouvoir. Simone Veil, Jean Cavaillès et Georges Canguilhem. Le courage, tout simplement, point d'interrogation. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Ouria Bénis Sinasser, philosophe et historienne des mathématiques et de la logique, membre de l'Institut d'Histoire et Philosophie des Sciences et des Techniques depuis l'époque où la direction en était assurée par Georges Canguilhem et Suzanne Bachelard. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous avez écrit beaucoup sur Jean Cavaillès, notamment un livre chez Vrin en 2018 et un autre aux Belles Lettres en 2013. Bienvenue aussi à Jean-Jacques Cessignars. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien et philosophe. Vous avez reçu le Grand Prix Georges Charpak de l'Académie des Sciences en 2015. Et vous avez co-dirigé avec Baptiste Mélès l'ouvrage intitulé « Hommage à Jean Cavaillès, édition Hermann » en 2019. Et enfin, à distance, mais bien avec nous, en duplex depuis Grenoble, bonjour Robert Chenavier.
Bonjour Géraldine Mulman.
Vous êtes agrégé docteur en philosophie, ancien professeur de lycée et président de l'Association pour l'étude de la pensée de Simone Veil et directeur de la publication des cahiers de Simone Veil. Évidemment, nous parlons de la Simone Veil avec un W, la philosophe dont vous êtes donc un grand spécialiste. Et je renvoie aussi de notre émission pour les références de vos ouvrages, Robert Chenavier, sur Simone Veil. Alors pour commencer cette réflexion sur le courage, à l'aune de Jean Cavaillès, de Georges Canguilhem et de Simone Veil, écoutons Lucie Aubrac pour planter le décor historique. Lucie Aubrac qui évoque quelques semaines après avoir organisé l'évasion de son époux Raymond en août 1940 et après s'être installée à Lyon avec lui. Elle évoque donc une scène d'automne 1940 à Clermont-Ferrand.
Quand nous sommes arrivés à Lyon, Raymond a été démobilisé, donc il est redevenu un ingénieur des ponts, il a trouvé un patron, ça s'est bien passé. Mais moi, j'avais pas de poste, et l'université de Strasbourg était repliée à Clermont-Ferrand. Me voilà donc qui part à Clermont-Ferrand voir mon administration d'origine. Et qui je rencontre? Jean Cavaillès, qui était aussi à Strasbourg, en même temps que moi, en 38-39. Et nous déjeunons ensemble le midi à Clermont-Ferrand, à la table voisine, et nous parlons de Pétain, très fort de Pétain, et aussi un peu de cette occupation allemande, de ce besoin d'aider l'Angleterre, qui était le seul pays en lutte contre les Allemands. Et à la table voisine, on avait bien vu qu'il y en avait deux qui nous écoutaient. Et comme à ce moment-là, on n'avait pas encore le sens de la clandestinité, le plus on avait l'impression qu'ils nous écoutaient, le plus on parlait fort pour essayer de faire passer nos idées. À tel point qu'ils se sont approchés avec leur tasse de café, c'était Emmanuel Dastier de la Vigerie, et Spanien, c'était un avocat qui était l'avocat de Blum. Et puis un autre s'appelait Rochon, Jean Rochon, qui était journaliste au journal La Montagne, que dirigeait un vieux radical socialiste franc-maçon qui s'appelait Alexandre Varenne, qui avait voté contre Pétain, qui faisait partie des 80. Et qui nous dit, mais dites donc, c'est intéressant ce que vous faites, et Dastier de la Vigerie avait déjà un petit noyau avec ses amis personnels qu'il appelait la dernière colonne.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
C'était Lucie Aubrac au micro de Marie-Hélène Bonneau dans une collection de témoignages du Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon. Alors je précise donc que Cavaillès, Lucie Aubrac et Emmanuel Dastier de la Vigerie ont fondé le mouvement de résistance Libération Sud, qui a donc suivi ce premier mouvement, la dernière colonne. Et Libération Sud deviendra un des trois plus grands mouvements de résistance en zone sud, les deux autres étant Combat d'Henri Freinet et Bertie Albrecht, et Franc-Tireur de Jean-Pierre Lévy notamment. Et Libération Sud s'étendra aussi au nord, deviendra Libération Nord également. Ouria Bénis Sinasser, qui était Jean Cavaillès, né en 1903? Quel homme était-il quand il entre en résistance en 1940? Qu'avait-il fait? Quel personnage était-il?
Alors, jusque-là, il avait été surtout un très grand philosophe, qui s'était attaqué à des choses difficiles que personne ne connaissait avant lui, qui avait, pour ainsi dire, acclimaté en France des idées mathématiques et des idées philosophiques qui étaient nées en Allemagne. Il connaissait l'allemand, il parlait l'allemand, il connaissait bien l'Allemagne puisqu'il y était allé plusieurs fois. Mais en 40, au moment où il fonde par exemple Libération Sud, je voudrais dire aussi qu'il a été un des fondateurs du journal Libération.
Oui.
Et l'éditorial du premier numéro n'est pas signé Cavaillès, mais il a été écrit par Cavaillès.
Ah, je croyais qu'il avait été écrit par Georges Canguilhem. Vous.
Non, Canguilhem l'a vu, mais je pense que la rédaction est de Cavaillès. Et j'aime citer cette phrase qui est dans cet éditorial où il dit que ça ne sera pas un morceau de papier. Il dit que, ce journal est destiné aux Français qui n'ont pas renoncé. Et renoncer est écrit en lettres capitales. Et il dit ainsi, ce journal ne sera pas une feuille de papier, mais un acte. Et donc, déjà, ça situe le personnage donc, à l'intersection de la pensée difficile, rigoureuse, et de l'action.
Alors, on va préciser, vous disiez qu'il s'est attaqué à des choses difficiles en philosophie que personne n'avait explorées avant lui. Ce qu'il a de tout à fait caractéristique, c'est qu'il connaissait très bien les maths, et sa thèse d'ailleurs principale, déposée en 1937 et soutenue en janvier 38, s'intitule « Méthode axiomatique et formalisme, et sa thèse complémentaire « Remarque sur la théorie abstraite des enseignants ». Ensemble. Vous êtes Jean-Jacques Cessignard, un spécialiste de Cavaillès, mais vous êtes vous-même matheux et philosophe. C'est important, Cavaillès, sur le plan de la réflexion sur les mathématiques en philosophie.
Oui, c'est très important. On peut dire qu'il inaugure une certaine manière de travailler les mathématiques en philosophe. C'est comme on dit, la philosophie de l'intérieur. Hein. C'est une analyse extrêmement précise de la formation de la théorie des ensembles, la grande théorie des ensembles. Et à chaque fois, il en tire des considérations philosophiques complètement ancrées sur l'analyse des concepts mathématiques.
Alors donc ça, aujourd'hui encore, on peut dire qu'il a apporté quelque chose qui n'est pas effacé.
Bien sûr, sur le plan philosophique, sans aucun doute. C'est une façon de travailler qui a essaimé, qui a donné lieu à des élèves, à toute une tradition. Sur le plan mathématique, évidemment, on a avancé.
Il a démontré des choses aussi sur le plan mathématique, des théorèmes.
On ne peut pas dire qu'il ait vraiment démontré des choses. Il a explicité des théorèmes.
Oui.
Il a clarifié des positions en théorie des ensembles infinis. Il y a évidemment une chose importante, c'est la traduction qu'il a faite avec Émile Noether de la correspondance Cantor des Deking. Et là encore, quand on suit lettre par lettre, on voit comment Cantor élabore sa théorie des ensembles. Alors sur ce plan-là, évidemment, ça apporte beaucoup, ça éclaire beaucoup.
Alors, on va préciser, donc il est normalien, il a d'ailleurs été reçu premier au concours en 1923 à la rue d'Ulm. Il est aussi matheux et philosophe, et puis il va devenir agrégé répétiteur à l'école normale, ce qui est un poste qui prépare notamment les élèves à l'agrégation. Et là, il va rencontrer pas mal de monde, qui vont donc être ses élèves, même s'ils sont très très proches de lui en âge, Merleau-Ponty, mais aussi Albert Lotman. Est-ce qu'il y aura Canguilhem assez vite dans le paysage, hein, Georges Canguilhem, pas tellement plus jeune que lui, hein, ils ont presque il a un an de moins.
Non, il y a des jeunes, des jeunes par rapport à lui. Enfin, ouais. Il n'était pas beaucoup plus vieux qu'eux, d'ailleurs. Hein, donc, et il y a même certains qui ont donné lieu à des publications un peu grand public. Hein. Il y avait Clavel à son cours. Hein. Je ne vais pas vous raconter.
Il avait une aura, paraît-il, d'enseignant,
oui.
Une générosité. Quelqu'un d'assez extraordinaire, humainement.
Oui, c'était un enseignant hors pair, évidemment. Et en même temps, il impressionnait beaucoup ses élèves, les étudiants qui suivaient ses cours. Hein.
Donc ça, Et quand il est nommé à Strasbourg, donc, et Strasbourg, comme l'a expliqué Lucie Aubrac, l'ensemble d'ailleurs de toute l'académie de Strasbourg va être transféré à Clermont-Ferrand pendant la guerre, il va garder son poste pendant qu'il entre en résistance.
Oui,
Oui, Ouria Bénis.
Oui, bien sûr.
Il va continuer à enseigner tout en faisant du sabotage, du renseignement, préparer le bombardement de la base de Lorient, faire des sabotages en Bretagne.
Tant que Vichy ne démet pas de son poste, oui. Il a d'abord été à Strasbourg d'abord, puis Clermont-Ferrand, et ensuite à la Sorbonne en 41, en remplacement de Poirier qui est parti en mission au Brésil, en Amérique du Sud. Et il a toujours enseigné tant que Vichy ne le démet pas de son poste, parce qu'il devenait trop encombrant.
Donc en 41, il part à la Sorbonne, il laisse son poste de Clermont-Ferrand à Georges Canguilhem, qui le remplace. Et donc lui, à Paris, quand va-t-il devoir arrêter d'enseigner? Quand il va être emprisonné ou...
Non, il avait été emprisonné avant. Il a été au camp de Saint-Paul-des-Jaux en 43, oui. Déjà, où il a commencé à rédiger ce qu'il va appeler lui-même son testament philosophique. Mais je voulais revenir sur un point. Tout à l'heure, vous avez cité sa thèse sur l'essai sur les remarques sur la théorie abstraite des ensembles. Et lorsqu'on lit certains passages de cette thèse, il y a quand même quelque chose d'impressionnant, après coup, si je puis dire, c'est qu'il parle non pas de la découverte, mais de l'invention du mathématicien comme d'une puissance de négation, la puissance de dire non à ce qui est déjà là.
Oui.
Non pas pour le refuser complètement, mais en tout cas pour le transformer. C'est-à-dire ne pas accepter passivement ce qui a été déjà fait par les précédents. Et donc s'inscrire dans la continuité des précédents, mais aussi savoir dire non, il faut que je le refasse pour moi-même, il faut que je le retrouve, il faut que je l'invente, il faut que je le continue. Et donc c'est assez impressionnant de voir cette analyse d'une théorie totalement abstraite, à l'époque nouvelle, que peu de gens comprenaient, analysée avec des mots qui ne sont pas des mots de mathématiques, mais des mots de philosophe.
Alors, Robert Chenavier, vous êtes surtout spécialiste de Simone Veil, mais je voulais savoir si Simone Veil avait connu, enfin, savait ce qui se passait pendant la guerre pour ce qui concernait Jean Cavaillès. Je rappelle que Jean Cavaillès a ensuite fondé aussi le réseau Cohors, qui était un réseau de renseignement qui a fini par être infiltré par le renseignement allemand, la Abwehr, en 1943. Il sera arrêté en août 43, torturé. Il ne parlera pas ou quasiment pas à Fresnes. Il sera transféré ensuite à Compiègne en janvier 44, puis exécuté dans la citadelle d'Arras en 1944. Est-ce que dans les années, disons, 40, 41, 42, Simone Veil, qui n'est pas très en forme à Londres, on y reviendra, mais qui a très envie de s'engager, sait un peu qui est Jean Cavaillès, ce qu'il fait et ce que fait d'ailleurs aussi Georges Canguilhem.
Oui, alors, Georges Canguilhem, elle l'a connu, j'allais dire indirectement d'abord, parce qu'au puits, Simone Veil, en 31-32, Simone Veil partageait un appartement avec Suzanne Antériou, qui deviendra Madame Canguilhem, et Canguilhem a logé chez les Veil à Paris à plusieurs reprises. Bon, ils étaient aussi condisciples à l'École normale supérieure, même s'ils n'étaient pas exactement la même génération. Et quant à Cavaillès, alors, bon, ben Cavaillès, évidemment, il était connu de Simone par son frère André.
Donc, André Veil, grand mathématicien.
Et voilà, c'est ça. Donc, il en est beaucoup question dans la correspondance, etc. Et Cavaillès, je crois, mais ça, il faudrait le faire confirmer par vos deux autres invités, je crois que Cavaillès a même assisté à des congrès de Bourbaki, ce qui signait évidemment son niveau, excellent niveau en mathématiques, parce que c'était pas facile de suivre les travaux de pointe de Bourbaki. Donc tout
Bourbaki,
ça lui était connu.
Qui sait, oui. Quand même, donc c'est pas du tout un personnage réel, c'est un personnage fictif, Nicolas Bourbaki, mais ça, il a donné son nom à un groupe, c'est un groupe qui a été inventé pour exposer l'état des mathématiques, c'est ça?
Oui, le développement des mathématiques avec un programme qui d'ailleurs a beaucoup varié par la suite, mais c'est une sorte de groupement de mathématiciens Ils sont anonymes, hein, on ne doit pas savoir qui est membre de Bourbaki, et à passer 50 ans, ils doivent sortir. Hein, ils sont plus et donc ils élaborent des volumes qui ont fait la collection des Bourbaki.
Et on sait quand même, parce qu'on sait malgré l'anonymat, que Cavaillès est allé le fréquenter et que
André Weil
a été très actif dans ce groupe.
Pour le volume de Théorie des ensembles, enfin il a participé, il a donné des indications, ils ont discuté sur ce volume-là.
Alors en ce qui concerne Cavaillès, donc posons cette question du courage, qui était une sorte d'évidence. Pour lui, pour tous ceux qui l'ont approché, c'est ce qui ressortait. Et vous écrivez, Ouria Benissi-Nasseur, qu'il y avait chez lui un alliage intime de la stricte raison et de la ferveur vive, de l'austère abstraction des procédures mathématiques et des concepts philosophiques, et de l'effectivité charnelle de questions essentielles. Et cela, ajoutez-vous, procédait chez Cavaillès d'une disposition éthique qui se manifeste, même s'il n'en discourt pas, tant dans ses écrits les plus techniques que dans ses prises de décisions intellectuelles et politiques. Il y a donc comme une évidence mathématique de l'éthique elle-même, enfin c'est ce que j'entends dans ce que vous dites, et une des choses qui ressort aussi, c'est qu'il avait le sens de la nécessité logique, avec un clin d'œil à Spinoza, qui était un penseur de cette nécessité là aussi d'un certain nombre de choses, y compris peut-être dans le domaine éthique, on va voir. Je propose qu'on lise un extrait de Canguilhem à propos de Cavaillès et de cette et de ce rapport à Spinoza et à la logique de l'action éthique. C'est Manon de la Selle qui va nous le lire.
Cavaillès a toujours lu, étudié et on peut dire pratiqué Spinoza. Il a trouvé en lui, malgré sa dureté, plus de vraie vie spirituelle qu'en Leibniz ou en Malebranche. Et c'est parce que la philosophie de Spinoza représente la tentative la plus radicale de philosophie sans cogito qu'elle était si proche de Cavaillès, si présente à lui quand il avait à s'expliquer aussi bien sur l'idée de son combat de résistant que sur l'idée de la construction des mathématiques. En 1943, à Londres, il a dit à Raymond Aron « Je suis spinoziste, je crois que nous saisissons partout du nécessaire. Nécessaire les enchaînements des mathématiciens, nécessaire même les étapes de la science mathématique, nécessaire aussi cette lutte que nous menons. Je le redis, croyant l'avoir maintenant justifié, Cavaillès, chef des résistants, s'est conduit comme l'exécutant d'une tâche essentielle, de sens profondément philosophique. »
C'était Georges Canguilhem, lecteur de Jean Cavaillès, d'un texte sur Jean Cavaillès, à l'inauguration de l'amphithéâtre Jean Cavaillès à la nouvelle faculté des lettres de Strasbourg en 1967. Jean-Jacques Cessignars, ça vous paraît évident, vous qui avez aussi travaillé sur Cavaillès, que le fait qu'il était mathématicien se voyait éthiquement. Il avait un rapport à l'éthique qui était, voilà, il y a des évidences logiques, il faut y aller, c'est un impératif.
Oui, alors c'est délicat, mais bon, c'est sûr que l'expérience mathématique, c'est l'expérience de l'honnêteté, de la rigueur, de la contrainte, de la persévérance et du courage. Pour se lancer dans une démonstration mathématique, il faut parfois beaucoup de courage, parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver, on n'est pas sûr d'aller au bout. Alors cette expérience-là, certainement, elle a dû, Cavaillès l'a pratiquer et l'a... Je peux dire presque il l'a subi, et certainement ça a orienté sa conduite pratique dans la vie de tous les jours.
Robert Chenavier, vous voulez dire quelque chose sur ce point?
Sur le courage que nécessite le... Oui, écoutez, je pense que il y a quelque chose en effet chez Cavaillès qui est cette référence à la nécessité. Bon, il y a de la nécessité dans les maths, il y a de la nécessité dans l'action. Que les mathématiques soient une école d'honnêteté, de courage, de persévérance et d'endurance. Je crois que Simone Veil en était persuadée par les échanges qu'elle avait avec son frère, même si son frère lui disait qu'elle ne comprenait pas toujours vraiment ce qu'il tentait de lui expliquer. Il n'était pas toujours absolument d'accord ni sur l'histoire des mathématiques, ni sur les mathématiques grecques, ni sur les mathématiques contemporaines. Mais elle attachait une très grande importance aux mathématiques, et ses cahiers sont remplis de notations mathématiques ou sur les mathématiques.
On est quand même obligé obligée, par rapport à ce que vous venez de dire, de souligner qu'André Weil a fait des choix tout à fait opposés de vie à celui de Cavaillès. Lui, il est resté, il a pu partir aux États-Unis et il n'avait aucune intention pendant la guerre de revenir en France pour se battre. Il était loin des allers-retours qu'a fait Cavaillès entre la France et Londres.
Absolument.
Et à cet égard, il n'était pas non plus comme sa sœur Simone.
Non, certainement. D'ailleurs, dans leur correspondance, Simone Weil essaie de le persuader que il pourrait d'ailleurs ne pas être un combattant, parce que le service du chiffre, n'est-ce pas, bien connu, qui tentait de déchiffrer les énigmes des communications allemandes et qui supposait des cerveaux comme celui de Turing, par exemple, aurait pu bénéficier de la compétence d'André Weil. Bon, André Weil ne voulait pas en entendre parler. Dans ses mémoires, il faut bien reconnaître qu'il a des considérations, je vais dire entre guillemets, un peu désinvolte, enfin sur la guerre. Mais Simone Weil avait fini par lui dire « Écoute, un animal aussi rare qu'un grand mathématicien comme toi mérite finalement d'être sauvé et d'être conservé.
» Alors, je voudrais aussi que Ouria Bénissi Nasser réagisse au fait que, en tout cas dans le discours de Canguilhem que nous venons d'évoquer de 67, il n'y a pas que la référence aux mathématiciens. Il y a aussi la référence à propos de Jean Cavaillès au professeur qui doit donner une sorte d'exemple éthique. On écoute à nouveau Manon de la Salle et vous nous direz comment vous réagissez à ce texte.
À la question posée par un professeur de l'Université de Strasbourg, pourquoi des professeurs ? Un professeur de l'Université de Strasbourg, Jean Cavaillès, a donné une réponse plus éclatante encore par sa mort de combattant que par sa vie de professeur. Pourquoi des professeurs ? Pour savoir, à l'occasion, donner une leçon d'action à ceux qui jugent ces deux notions incompatibles. Cavaillès, philosophe combattant, enseigne aux hommes dits d'action que l'action n'est pas une inconsistante et lâche pratique empirique. Cavaillès, philosophe mathématicien, nourri de poésie, qui citait Rimbaud dans ses leçons sur l'expérience, qui disait s'être cru dans le monde du bateau ivre en contemplant pour la première fois le port de Strasbourg, enseigne aux terroristes littéraires qu'avant d'être la sœur du rêve, l'action doit être la fille de la rigueur.
Ouria Bénissi Nasser.
C'est un très beau texte que je connais bien. Pour commenter, je ne peux pas dire mieux que Canguilhem, je peux juste commenter. Je crois qu'on peut dire que Cavaillès n'était pas un philosophe engagé. Il était un philosophe qui a pris les armes, qui n'a pas hésité à prendre les armes. Et d'ailleurs, Christian Pinault, qui l'a côtoyé de près, disait de lui que le mot de résistance ne pouvait pas mieux être représenté que par Cavaillès, que par la personnalité de Cavaillès. Et donc, en fait, l'action n'est pas de la philosophie appliquée. L'action, c'est la philosophie en acte, si je puis dire. Ce qui n'est pas du tout pareil. Il ne s'agit pas d'application. Et donc, cette logique qui est commune à faire des mathématiques, à expliquer les mathématiques, à être enseignant, à expliquer même de la poésie, et à être un terroriste, en somme, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est ça, c'est mettre en acte ce qu'on pense. Et ça, bien sûr, Cavaillès l'a fait de manière à nul autre pareil.
Alors, à ce stade, on peut aussi parler de Georges Canguilhem lui-même, qui, au fond, a appliqué cette leçon. Il est né en 1904, il était lui aussi normalien, il connaissait sans doute Cavaillès de l'école, normal. Il a travaillé sur Auguste Comte, un positiviste, la question de la logique l'intéressait déjà beaucoup en thèse. En 1926, il était pacifiste marqué par Alain, mais comme beaucoup de disciples d'Alain, ils vont cesser d'être pacifistes quand ils vont voir arriver la guerre. Et puis donc, il arrive à Clermont-Ferrand pour remplacer Cavaillès dans son poste. Il deviendra une figure importante de la résistance auvergnate, hein. Médecin du maquis, car, et c'est aussi une chose stupéfiante, belle et rare, hein, c'est un philosophe qui a fait des études de médecine. Il semble d'ailleurs que ce soit le seul vrai moment où il exerçait la médecine, cette médecine si particulière qu'est la médecine de guerre. Jean-Jacques Cécignars.
Oui, alors, quand Guilhem dit qu'il n'a jamais, au sens strict, pratiqué la médecine, mais il a participé à une opération compliquée de chirurgie, assistée par un médecin, dans les maquis.
Oui.
Alors, et bien sûr, la médecine est devenue pour lui une forme de pensée. Hein, si on voulait développer cet aspect des choses, c'est-à-dire quand Guilhem médecin, c'est quelqu'un qui a repensé complètement la médecine en philosophe. Et avec, bien sûr, un renouvellement de la position, et en particulier, donc, il a centré sa réflexion, non pas sur la maladie, mais sur le malade et sur l'individu. Il a prôné une médecine de l'individuel. Et ça, c'est une grande nouveauté. Il a des disciples, des successeurs dans notre université qui ont développé ce point de vue canguilhémien sur la médecine. Grâce à lui, en partie, on peut dire que dans l'enseignement des études médicales, il y a une partie philosophique qui est développée, où on étudie la pensée de Georges Canguilhem et le type de rapport qu'il a essayé de développer, le rapport du médecin et du malade. Et ça, c'est un point de vue qu'on peut dire extrêmement moderne et contemporain.
Et on peut dire que la guerre est une expérience décisive dans son trajectoire, y compris pour penser à la médecine.
Oui, complètement. Alors, bon, vous avez rappelé qu'il a été il a participé au maquis d'Auvergne. Il avait même des responsabilités, puisqu'il a participé à une bataille connue.
Bataille du Mont-Monchet, après avoir fait l'hôpital de campagne de Maurine.
Exact.
Il dirigeait le service, là. Vraiment les armes, mais c'est l'engagement dans la résistance, par la médecine, finalement.
Oui, par la médecine, par sa réflexion, qui est assez parallèle à celle de Cavaillès. Hein. Et il a eu des responsabilités pour entrer dans Vichy, aussi. On lui a confié une responsabilité, une autre responsabilité dans l'organisation et la prise en compte des fonctionnaires de Vichy.
Et qu'est-ce qu'il a ? Parce qu'en fait, il a très vite écrit, dès l'automne 40, alors qu'il était encore recteur de l'Académie de Toulouse, il a carrément écrit au recteur pour lui dire que... Il était de l'Académie de Toulouse, il a déjà très très tôt écrit au recteur qu'il n'avait pas passé la grecque de philo pour enseigner travail, famille, patrie. Donc son rapport
exactement,
à Fichy, il est quand même très clair, très tôt.
Oui, oui, tout à fait. Oui, avec, bien sûr, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Canguilhem s'est engagé en médecine aussi. Hein. C'est une sorte d'insatisfaction de la philosophie qu'il considérait comme un peu abstraite, et c'était une manière de rendre plus concrète et pratique sa réflexion philosophique. Hein, donc.
Et ce personnage donc, pose aussi une singulière question. Il remarque, lorsqu'il fait une inauguration de l'amphithéâtre qu'on a cité, mais aussi lorsqu'il a commémoré à d'autres reprises la mémoire de Jean Cavaillès, par exemple sur l'ORTF en 1969, Canguilhem remarque que pendant la guerre, ce sont peut-être des gens comme lui et surtout comme Cavaillès qui avaient un rapport à la logique, qui n'étaient pas des penseurs de la subjectivité. Ce sont ceux qui ont étonnamment été les plus courageux, alors que les grands penseurs de l'engagement, du sujet, de la conscience, et évidemment c'est Sartre qui est visé sans être dit, c'est encore plus élégant, n'ont pas été très brillants comme résistants pendant la guerre. Je vous propose de lire Manon de la Selle à nouveau, un extrait de cette commémoration de Jean Cavaillès. C'est donc Georges Canguilhem en 1969.
Parler de Cavaillès ne va pas sans quelques sentiments de honte, puisque si l'on lui survit, c'est qu'on a fait moins que lui. Mais si on ne parle pas de lui, qui saura faire la différence entre cet engagement sans retenue, entre cette action sans ménagement d'arrière, et la résistance de ces intellectuels résistants qui ne parlent tant d'eux-mêmes que parce que seuls peuvent parler de leur résistance, tellement elle fut discrète. Jean Cavaillès, c'est la logique de la résistance vécue jusqu'à la mort. Que les philosophes de l'existence et de la personne fassent aussi bien la prochaine fois, s'ils le peuvent.
Ouria Benissinasseur, quelle allusion discrète, élégante, mais cruelle et juste à Sartre, en fait, qui s'engage tardivement, peu, et qui parlera d'engagement toute
pareil.
Sa vie.
Pas du tout pareil. Mais ce que je voudrais dire sur ce point, c'est que, d'une en partie, ça vient aussi de la pratique de Spinoza, parce que chez Spinoza, Cavaillès n'a pas relevé seulement la nécessité. Il a aussi compris, ce qui n'était pas forcément aussi évident que la nécessité, il a compris le décentrement, c'est-à-dire le fait que dans la philosophie de Spinoza, on ne parle pas de soi, comme chez Descartes. Spinoza a rejeté le cogito, mais ça veut dire quoi rejeter le cogito? Ça veut dire rejeter une philosophie qui commence par « je pense ». Et Cavaillès a écrit dans l'éthique, non pas « je pense », mais « l'homme pense », ce qui n'est pas du tout pareil. Et là, vous avez le rejet du subjectivisme. Donc vous voyez que ça vient de loin. Et c'est très intéressant parce que l'histoire des mathématiques que Cavaillès a fait, comme l'a dit Poincaré, c'est une histoire de mathématiques sans mathématicien. Mais Cavaillès, il voulait faire ça, une histoire sans mathématicien. Alors qu'évidemment, aujourd'hui, on va mettre en scène le sujet mathématicien, ce qu'il fait, etc. Non, à l'époque, c'était vraiment la mathématique sans mathématicien. Et donc aussi, la philosophie qui ne commence pas par « je pense ».
Alors ce paradoxe que vous éclairez très bien, on pourrait d'ailleurs ajouter que Spinoza était aussi un penseur de la liberté politique dans le traité théologique au
pays. Absolument, ça va ensemble.
Cela est aussi souligné par Michel Foucault, qui était un très grand admirateur de Georges Canguilhem et qui dit la même chose. On va à nouveau écouter Manon de la Salle. Il s'agit d'un texte de Foucault dans un numéro d'hommage à Canguilhem de la revue de métaphysique et de morale de 1985, où lui aussi souligne que les philosophes du sujet n'ont pas été les plus courageux pendant la guerre, alors que les philosophes refusant le subjectivisme ont été extraordinaires.
Il y a une ligne de crête qui sépare une philosophie de l'expérience, du sens, du sujet, et une philosophie du savoir, de la rationalité et du concept. D'un côté, une filiation qui est celle de Sartre et de Merleau-Ponty, et puis une autre qui est celle de Cavaillès, de Bachelard, de Coiré et de Canguilhem. En apparence, la seconde est restée à la fois la plus théoricienne, la plus réglée sur des tâches spéculatives, la plus éloignée aussi des interrogations politiques immédiates. Et pourtant, c'est elle qui, pendant la guerre, a pris part et de façon très directe au combat, comme si la question du fondement de la rationalité ne pouvait être dissociée de l'interrogation sur les conditions actuelles de son existence.
Jean-Jacques Cessignars, j'aimerais que vous commentiez. C'est quand même, c'est à la fois troublant et vrai que ces penseurs qui ne pensaient pas le sujet libre, son engagement, ses dilemmes de conscience, ça c'est des problèmes sartriens, Sartre n'a pas été glorieux du tout, et à l'inverse, des gens qui ne pensaient pas du tout cela, comme Canguilhem et Cavaillès, ont une logique, une évidence du courage qui est sensationnelle.
Oui, c'est-à-dire que je dirais qu'ils essayent de penser l'engagement, le courage, à distance du sujet. C'est un engagement singulier, mais qui ne repose pas sur une théorie préalable du sujet. Donc il y a une sorte de... J'ai du mal à employer complètement l'expression. Il y a un vécu du nécessaire, qui est le résultat, évidemment, de réflexion, etc., mais qui est quasiment immédiat dans la décision. Donc Cavaillès dit je ne réfléchis pas, je ne décide pas, je dois le faire. Alors on peut dire que ça donne quelques échos à l'impératif kantien, mais c'est un impératif catégorique qui ne suppose pas préalablement une théorie élaborée du sujet avec ses facultés telles qu'on la trouve chez un certain Descartes, hein, parce que Descartes c'est plus que ça, mais on la trouve chez un certain Descartes.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me.
woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
The graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Leonard Cohen, The Partisan, 1969, c'est une reprise, une remise en musique de la complainte du partisan qui a été composée par Anna Marley pendant la guerre avec des paroles d'Emmanuel d'Astier de la Vigerie. Et en 1969, Leonard Cohen a donc proposé une traduction en anglais, une reprise de cette chanson, qui ensuite a été reprise beaucoup, en particulier par Joan Baez.
Simone Veil n'a jamais accepté, c'était un point commun avec Gandhi d'ailleurs, le moindre écart entre la pensée et l'action. À partir du moment où elle croit que la cause des républicains espagnols est juste, elle, femme faible, torturée par des maux de tête, va s'engager. À partir du moment où elle constate que la guerre est menée par des méthodes et avec des moyens qu'elle réprouve, elle part. Simone, avant les lois sociales de 1936, est obsédée par la condition ouvrière. Que fait-elle ? Elle s'engage, comme ouvrière, à la chaîne, dans une grande usine. Simone, qui avait été pacifiste intégrale, choisit la résistance au nazisme à partir d'une certaine date. Dès lors, il lui faut non seulement courir le risque de la mort, non seulement braver la mort, mais trouver la mort dans la lutte.
C'était Maurice Schumann sur France Culture dans Les Chemins de la Connaissance le 10 juillet 1989. Robert Chenavier, oui. Est-ce que comme le dit Schumann, Simone Veil, c'est le refus de tout écart entre la pensée et l'action ?
Oui, je crois que tout est dit dans cette déclaration de Schumann, et je reprendrai volontiers à propos de Simone Veil ce que Uriah Sinasser a dit de Cavaillès, à savoir que ce n'est pas un philosophe engagé dans la mesure où Simone Veil veut être exposée, c'est le grand mot, elle veut être exposée au malheur de son temps, elle veut être exposée dans l'action, aux souffrances partagées par ceux qui combattent pour des causes qu'elle approuve, ce qui fait que, par exemple, le cas de l'Espagne est intéressant puisque elle est pacifiste et au fond elle soutient la participation de Blum, c'est pas le mot, je le trouve pas, la non intervention.
Oui.
Et en fait, ce qui ne l'empêche pas personnellement de vouloir s'engager. Même chose à l'usine, évidemment, et même chose en quand elle sera à Londres, où elle voudra être parachutée en France pour avoir une mission dangereuse. Elle insiste là-dessus.
En juillet 1936, écrit-elle, plus tard, « J'étais à Paris, je n'aime pas la guerre, mais ce qui m'a toujours fait le plus horreur dans la guerre, c'est la situation de ceux qui se trouvent à l'arrière. » Et dans un autre texte, elle précise que ceux qui se trouvent à l'arrière bavardent de ce qu'ils ignorent. Il n'est donc pas question pour elle d'être à l'arrière. Il y a un besoin impérieux pour Simone Veil, Robert Chenavier, d'exposer son corps.
Elle détestait les gens qui parlent brillamment, comme elle disait, de ce qu'ils ignorent. Et en fait, le fait de vouloir être exposé repose chez elle aussi sur une conception de la vérité, c'est-à-dire la vérité est expérimentale, elle l'a dit sous toutes les formes. Autrement dit, c'est toujours une vérité de. Donc si je veux connaître la vérité du travail, je vais travailler en usine, et si je veux connaître la vérité de la guerre, eh bien je participe à la guerre.
Je propose
sinon,
qu'on l'écoute encore. Oui. Manon de la Selle va nous lire un extrait de ses leçons de philosophie. 1933, donc c'est la philosophe Simone Veil.
Une première forme du courage consiste à s'exposer, soit activement, ceux qui vont à la bataille, soit passivement, résistance à la torture, martyr antifasciste. Une deuxième forme consiste à rester lucide dans le danger et la souffrance, sans froid. Une troisième forme consiste à rester lucide au milieu des passions de l'extérieur. Cherchons le principe commun à ces différentes formes. On en arrive à la définition de Platon, une opinion vraie concernant les choses à craindre et à ne pas craindre. Il faudrait chercher le rapport du courage avec les autres vertus. On arriverait à voir que non seulement il y a un seul courage, mais il y a une seule vertu, qui consiste à rester conscient et maître de soi.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Robert Chenavier, s'exposer, c'est une des façons de rester lucide. Rester lucide, rester lucide, c'est répété dans le texte qu'on vient de lire de Simone Veil. Et évidemment, l'hymne à la maîtrise de soi, à l'impératif de rester conscient. C'est d'autant plus touchant, Robert Chenavier, me semble-t-il, que Simone Veil était très frêle, physiquement, et assez maladroite, tout le monde le savait, elle c'était pas vraiment une combattante, Schumann n'a pas du tout eu envie de l'envoyer en France, depuis Londres, puisqu'elle est allée les rejoindre là-bas, alors qu'elle était aux États-Unis, elle est allée à Londres, elle a demandé à être envoyée, Cavaillès d'ailleurs a donné raison à Schumann, et puis déjà pendant la guerre d'Espagne, bon enfin, on l'a mise aux cuisines, elle a mis son pied dans une grande bassine d'huile chaude, elle s'est brûlée gravement, enfin, elle était pas faite pour le combat, et pourtant, elle voulait y aller.
Oui, oui, oui. Enfin, elle estimait qu'elle était faite, elle, pour le combat, certainement. C'est-à-dire que être lucide pour elle, surtout au milieu des passions de l'extérieur, comme elle dit, il s'agit d'échapper avant tout à ce qu'elle appelle la contagion de la folie et du vertige collectif. Or, s'il y a un impératif chez elle, qu'elle répète assez souvent, c'est que rien au monde ne peut nous interdire d'être lucide. C'est-à-dire que même lorsqu'on vous démontre qu'une cause est perdue, eh bien, l'essence du courage, c'est quand même de lutter. À vrai dire, la seule arme, dit-elle, dont nous puissions être sûrs, justement, qu'elle ne se retournera pas contre nous, ce sont les idées claires. C'est la seule chose qui évitera de nous rendre complices des régimes totalitaires. Être lucide, c'est savoir ce que l'on veut. C'est pas vouloir faire, c'est savoir exactement ce que l'on veut et ce qui est. Donc, le courage passe par une forme de connaissance et pas par une fureur combattante, n'est-ce pas ? Elle oppose la vertu morale du courage à la fureur combattante qu'on peut trouver chez les héros américains, par exemple.
En même temps, c'est assez troublant, ce souci de la lucidité et des idées claires, alors que de toute évidence, elle s'est beaucoup privée de nourriture, elle s'est affaiblie physiquement, ce n'est pas propice aux idées claires, on peut quand même convenir de cela. Elle avait quelque chose de sacrificiel et de mystique, et pourtant, elle insistait. Dans ce sacrifice et ces privations, il y avait l'enjeu des idées claires. pour elle.
Ah, il y a toujours l'enjeu des idées claires. Elle connaissait cette fragilité. Lorsqu'à la fin de sa vie, déjà, elle entendait dire, en particulier par ses parents, que Simone Veil était une sainte, elle protestait, elle l'a fait dans sa correspondance en disant « Si Dieu m'a donné un ersatz de sainteté, c'est vraiment quelque chose qui ressemble à la sainteté, parce que les saints débordent de vie et d'énergie, et moi je manque totalement de vie et d'énergie. » Donc elle avait une forme de elle le dit d'ailleurs, de mépris et de dégoût, d'une certaine façon, pour sa personne et pour elle-même. Cela dit, la valeur chez Simone Veil est toujours impersonnelle. Les valeurs du vrai, du bien, du beau sont impersonnelles. Et s'exposer, c'est précisément atteindre une forme de contact avec le monde et avec ce que le monde peut avoir de plus malheureux et de plus souffrant dans une expérience qui est à la fois personnelle, évidemment il faut y aller, mais en même temps impersonnelle, c'est-à-dire pouvoir sortir de soi, comme elle l'explique quand elle est à l'usine, pour éprouver que le malheur des autres est entré en vous.
Puisqu'elle a, elle a fait des expériences à l'usine dans les années 30, lors de ses premiers postes en province. Alors, vous dites impersonnel. Bon, c'est très intéressant parce que, une nouvelle fois, nous avons affaire à une philosophe, après Canguilhem et Cavaillès, qui n'est pas exactement une philosophe du sujet, quoi, de la
conscience.
Voilà. Et c'est plutôt celle d'un impératif. Alors, l'impératif n'est pas la logique, comme analogue à la logique mathématique, mais c'est une sorte de logique mystique, religieuse, qui est une espèce d'évidence qui s'impose à la conscience. C'est ça, Robert Chenavier.
Oui, c'est ce qu'elle appelle dans une lettre à Schumann, c'est ce qu'elle appelle une vocation. Elle lui explique comment elle est. Elle lui dit voilà pourquoi je veux être parachutée en France et pourquoi je veux intervenir dans une action. Elle aurait voulu être plastiqueuse et déboulonner des rails. Être fonctionnaire, intellectuel fonctionnaire à Londres, elle détestait ça. Et en réalité, elle lui dit « Qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça, je n'y peux rien, je ne peux retrouver mes capacités de pensée que si je suis parmi les gens qui souffrent et qui agissent. » Alors, elle appelle ça une vocation, et dans une lettre à Simone Pétremont, elle emploie une très belle expression, elle parle de sa nécessité intérieure. « Il y a en moi une nécessité intérieure, et cette nécessité intérieure, elle doit être suivie. » Et finalement, ce qu'elle cherche... toujours. C'est la façon dont cette vocation, cette nécessité intérieure peut être articulée à une action dans certaines circonstances.
Et donc elle va mourir, oui, pardon.
Oui, c'est ça.
Pleure trop vite, mais il faut bien.
Non.
Elle meurt en 43, oui. En Angleterre, sans doute d'une tuberculeuse, mais d'une crise cardiaque peut-être liée aussi à sa privation de nourriture, c'est ça?
Oui. Écoutez, je crois qu'elle meurt d'épuisement.
Épuisement.
Elle écrit à Schumann, de toute façon, je suis cassé, rien ne pourra plus me réparer, etc. Je crois profondément qu'elle meurt de chagrin à Londres. C'est-à-dire qu'elle a compris que le fait de l'empêcher, justement, d'aller exercer sa vocation comme elle l'entendait, dans des circonstances qui donnent, justement, une réalité à une vocation, c'est quelque chose qui, chez elle, la privait de ce qu'elle appelle un besoin de l'âme. Il y a des besoins du corps, bon, être nourri, sinon on meurt. Il y a des besoins de l'âme, s'ils ne sont pas satisfaits, elle l'écrit d'ailleurs à un correspondant, le père Perrin, si les besoins de l'âme ne sont pas satisfaits, on peut aussi en mourir, on appelle cela mourir de chagrin. Je crois que elle n'a pas pu exercer justement ce courage qu'elle comptait exercer jusqu'au bout. Et il ne lui restait plus qu'une chose, c'est Simone Pétremont le dit, elle a raison, au fond c'était disparaître. Elle dit dans sa lettre à Clauzon, soit si vous ne m'envoyez pas en France, soit je trouverai le moyen de servir de chair à canon, soit j'essaierai d'écrire ce que j'ai dans le ventre, mais ça veut dire que je redeviendrai une intellectuelle et je ne veux pas être une pure intellectuelle, ou alors je m'éteindrai dans un travail physique anonyme. Ce qui est, dans tous les cas, une façon de, j'allais dire, de se décréer totalement.
Alors, mes autres invités, qui sont plutôt spécialistes de Cavaillès et de Canguilhem, j'aimerais bien savoir comment vous réagissez à cette autre figure, très différente, qu'a été Simone Veil, cet autre rapport au courage, Jean-Jacques Cécignars.
Oui, alors, il y a certains termes qu'elle emploie qui, évidemment, nous fait penser à la nécessité spinoziste, quand elle dit « c'est une nécessité intérieure, je ne peux rien contre ça », donc c'est une sorte de ce qui en elle la pousse et qui n'est pas complètement conscient, je dirais, comme la conscience d'un sujet. Alors il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est, je dirais, la forme de son engagement qui pousse à l'extrême aussi certains traits qu'on peut trouver aussi chez Cavaillès, c'est-à-dire une conformité à l'idéal protestant et à la rigueur morale. Ça aussi, c'est. Mais je dirais qu'elle pousse jusqu'au bout, je dirais presque trop loin, cet engagement là, qui fait que ça confine à cette, donc parlait l'autre interlocuteur, cette volonté, je dirais presque, de disparaître, parce que on est de trop en tant que individu personnel. Hein, donc, alors là, évidemment, il y a quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, enfin qui est très différent, aussi bien de Cavaillès que de Canguilhem.
C'est Dieu, quoi. Enfin, c'est oui. La mystique. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Ouria Benissina, sœur? Je pense d'ailleurs que vous allez avoir le mot de la fin.
Ah bon? Alors, je pense qu'il y a des choses communes à Cavaillès. Par exemple, s'exposer, c'est certain. Le courage, c'est s'exposer. Enfin, quand on pense à Cavaillès. C'est aussi la maîtrise de soi, parce que tous les gens qui ont connu Cavaillès, on disait qu'il gardait un sang-froid, même dans les situations les plus dramatiques. Donc ça, c'est commun. Et la lucidité, c'est tout à fait important. Mais en revanche, il me semble, c'est peut-être pas tout à fait Cavaillès, en tout cas, c'est ce que je pense de Cavaillès. Je pense que le courage, dans le cas de Cavaillès, n'est pas lié à la conscience.
Oui,
lucidité,
on l'a dit d'ailleurs.
Oui, mais il n'est pas du tout lié à la conscience.
C'est une logique éthique quasi
mathématique. Mais c'est surtout peser un risque et savoir prendre une décision. Oui. Ne pas reculer, ne pas se laisser impressionner. C'est-à-dire avoir le dessus sur l'événement et non pas être le réceptacle de l'événement. C'est évidemment du pour ou contre. C'est le pari pascalien que Cavaillès fait, et d'ailleurs c'était un lecteur de Pascal, on n'a pas eu l'occasion de le dire, mais c'était un grand lecteur de Pascal. Et donc lui, il a parié non pas sur l'avenir futur, quand la République serait rétablie, etc., mais il a parié sur l'action qui apporterait cet avenir sans servitude, ce qui est tout à fait pas pareil. Et d'ailleurs je crois qu'il a dit quelque part que la liberté, il faut d'abord la gagner avant de pouvoir l'aménager. Et donc, ce que je veux dire, c'est que, en relation avec votre thème général, Cavaillès n'était pas un homme de pouvoir. Cavaillès était un homme d'action. Pas du tout.
Et c'est peut-être le cas des trois personnages que nous avons évoqués. Il me semble que tous les trois éprouvaient un impératif plus grand qu'eux, une espèce de logique éthique chez ce philosophe mathématicien Jean Cavaillès, quelque chose aussi de l'ordre de l'impératif du soin, de la médecine, c'est très important chez Canguilhem, et puis un impératif plus mystique chez Simone Weil. Voilà pour notre exploration de ce courage exceptionnel de trois philosophes à la même période. Je vous remercie infiniment tous les trois, Robert Chenavier, Ouria Benissina, sœur, Jean-Jacques Cécignars, de nous avoir éclairés à ce point ce matin sur ce courage. C'est à présent l'heure de la chronique de Frédéric Worms. Comment les réseaux transforment-ils les amitiés? Voici le pourquoi du comment.
Comment les réseaux transforment-ils les amitiés? Je dois reconnaître que je vais parler dans cette chronique de quelque chose que je ne connais pas directement, à savoir la façon dont, dans les réseaux sociaux, paraît-il, l'amitié est omniprésente. Ainsi, je n'ai pas, pour ma part, de compte Facebook ou d'autres comptes de ce genre à titre personnel, où, justement, la dimension personnelle semble essentielle. Il semble que le nombre d'amis déclarés des amis ou des ennemis, aimer ou ne pas aimer quelqu'un, soit au cœur de ces réseaux, à tel point que le mot « ami » en anglais, « a friend », soit devenu quelque chose comme un verbe. Je peux faire de quelqu'un un ami et je peux aussi le défaire. I can unfriend someone. Je peux défaire l'amitié avec quelqu'un d'un clic et on peut compter son nombre d'amis, de suiveurs, de followers, de partenaires. Au fond, cette dimension, j'avoue ne pas la connaître directement, mais ce dont nous avons tous l'expérience et qui est peut-être caché derrière cette transformation transformation numérique de l'amitié et au fond qu'il faut juger sur pièce, sur les actes. Sont-ce des vrais amis, sont-ce des amitiés superficielles? Il y a toujours eu aussi ces amitiés éphémères de rencontres ponctuelles qui ne durent pas forcément toute une vie. Mais le véritable problème sur le numérique, entre les réseaux sociaux, n'est peut-être pas tant la déclaration d'amitié ou d'inimitié individuelle que la condition structurelle de groupe liée par des amitiés et surtout par des inimitiés. Au fond, l'amitié n'est jamais seulement un phénomène individuel, ni directement un phénomène politique. On peut et on doit définir la politique plutôt par la lutte contre des actes qui nous agressent que par l'essence des amis et des ennemis. C'est aussi un phénomène social. Et le réseau nous apprend comment se constituent en actes pour le meilleur et souvent pour le pire des groupes qui se définissent par leurs amitiés contre d'autres groupes envers lesquels ils déclarent leur inimitié qui peut aller alors pour le coup jusqu'à la haine. Autant l'amitié ne va pas jusqu'à l'amour si facilement, autant l'inimitié peut aller très vite jusqu'à la haine quand elle constitue en effet un phénomène de groupe, un phénomène autour duquel peut terriblement se constituer le politique qui doit pourtant toujours se centrer sur les actes et non pas sur les identités. Mais l'inimitié de groupe est paradoxalement structurée par les réseaux, alors que l'idée de réseau semble indiquer des connexions inter-individuelles. Peut-être même l'idée d'avoir des amis et de défaire des amitiés sur les réseaux individuels est-elle un des remèdes contre cette structuration des groupes par la haine. Peut-être que cette ironie dont je faisais preuve envers les réseaux, d'inscrire ou de désinscrire des amis, est-il finalement anodin et peut-être même réparateur face à cette sacralisation des groupes les uns contre les autres. Revenons donc aux amitiés entre les individus, aux inimitiés qui ne nous détruisent pas, dont il faut admettre le risque et la négativité, et luttons surtout contre le durcissement de l'inimitié jusqu'à la guerre.
Merci Frédéric Worms. On peut retrouver votre chronique en podcast sur le site de Radio France, dans les programmes de France Culture. Il en va de même pour toutes les émissions d'Avec Philosophie. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jean-Guilain Meige. Je remercie aussi France Bleu Isère pour cette très bonne connexion avec Robert Chenavier à Grenoble. Cette émission a été préparée avec Jules Barbier en particulier et puis toute l'équipe d'Avec Philosophie, Chaïma Giboire, Manon de la Selle, Carla Michel et Aïda Ndiaye. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.
Le podcast Enquête d'idées repose sur une idée simple. Les idées, comme les personnages, ont une vie. Elles naissent, se transforment, se marient parfois. Enfin bref, vous avez compris l'idée.
Guillaume Erner.
Ce podcast est donc la première tentative de traiter une idée comme un organisme vivant et agissant. Et pour débuter cette série, j'ai choisi de traiter une notion qui est littéralement partout, conjuguée sous toutes ses formes, la résilience.
Enquête d'idées, la résilience, un podcast en 4 épisodes de Guillaume Erner et Éric Lancien sur franceculture.fr et l'appli Radio France.